Avant de commencer l'épisode, je me permets de vous informer qu'en ce moment même, sur le site internet du podcast lafourmi.media, a lieu une campagne de financement participatif et de précommande d'un superbe livre intitulé « Couleurs des étoiles à la conscience » qui a pour vocation d'accompagner la saison 2 du podcast qui vient de se terminer et contiendra tous les textes détaillés et les sources du podcast ainsi que de nombreuses planches illustrées dans une superbe édition que je suis très impatient de publier. Rendez-vous donc sur lafourmi.media pour aider à l'édition de ce superbe livre. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La Fourmi dans la coquille, le podcast pour sortir du dédale. Les concepteurs des IA essaient à tout prix de nous cacher une somme énorme de travail humain afin de présenter leur outil comme une espèce de baguette magique qui nous soulagera de tâches ingrates, masquant le fait qu'ils n'ont fait que déplacer le travail ailleurs, là où il est moins cher. La fourmi dans la coquille, saison 1, le trou noir philosophique, épisode 10, IA et esclavage. Alors oui, vous avez bien entendu, bien que la saison 1 soit terminée depuis presque un an, voici un nouvel épisode alors que nous avons terminé la saison 2 précédemment. Parce qu'il y a tout juste un an, début 2025, je vous disais, en 1930, John Maynard Keynes, l'économiste, imaginait que la mécanisation du travail autoriserait une semaine de 15 heures tout en consacrant nos énergies encore disponibles à des buts non économiques, un siècle plus tard, c'est-à-dire en 2030. On est dans les années 2020 et le travail hebdomadaire moyen se situe toujours autour des 30 à 35 heures, entre 25 et 55 ans pour la population. Où est donc l'impact de l'automatisation ? Alors qu'on nous la présente comme une nécessité économique et concurrentielle, ce chômage technologique évoqué par Keynes est largement surestimé et cache plutôt des orientations économiques importantes en nous privant de questions politiques importantes telles que la détermination des salaires, la localisation et les conditions du travail, pour quelle production, pour qui et par qui. Les concepteurs des IA essaient donc de nous cacher une somme énorme de travail humain pour présenter leur outil comme automatique. C'est faux, c'est mathématique et ils ne peuvent pas l'ignorer. Mais il est plus facile dans notre monde occidental du bon côté de l'IA de fermer les yeux et de ne pas trop s'en préoccuper. Un an s'est donc écoulé depuis que je parlais de ça, une année qui a vu progresser une certaine critique de l'IA et plus récemment émerger, bien que trop discrètement, le sujet de l'esclavage qui se cache derrière ces soi-disant intelligences artificielles. Esclavage. Je n'utilise pas le mot ni par provocation ni par exagération, mais bien pour décrire la réalité d'un monde néo-colonial numérique. En 1769, c'est-à-dire un siècle après l'idée du calculus ratiocinator de Leibniz, dont je vous ai parlé dans un des premiers épisodes de la saison 1, une idée un peu à l'origine de l'ordinateur moderne, en 1769, donc 220 ans avant l'ordinateur Deep Blue d'IBM, dont j'ai aussi parlé précédemment, l'ingénieur hongrois Johann Wolfgang von Kempelen a fait sensation en présentant en Europe un incroyable automate capable de jouer aux échecs, qu'on surnommait alors le Turc mécanique. Ce robot avant l'heure avait en effet une apparence humaine, il était moustachu et portait un turban, et il était assis derrière un buffet. Il fonctionnait plutôt bien et il gagnait souvent les parties auxquelles il jouait. Il a notamment battu Benjamin Franklin et Napoléon Ier. Mais le Turc mécanique était en fait contrôlé par un véritable joueur d'échecs dissimulé dans le buffet. Et on va voir que malgré son nom, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui ne diffère pas vraiment de cet automate entre guillemets. C'est en 97 que Deep Blue d'IBM a battu le champion d'échecs Garry Kasparov. Deep Blue est donc un ordinateur, une IA, mais entraîné avec des milliers de parties déjà jouées, notamment de grands maîtres des échecs et dont le développement était supervisé par des joueurs d'échecs. Là aussi, dans un certain sens, c'est assez difficile de parler de véritable intelligence artificielle alors que celle-ci ne fait que reproduire ce que des humains ont eu le plus grand mal à lui inculquer et dont les performances sont indissociables de la qualité et de la quantité des données d'entraînement. En 2005, Amazon remet ce turc mécanique au goût du jour avec quelque chose qu'ils ont appelé Amazon Mechanical Turk ou M-Turk. Là aussi, l'idée, c'est d'utiliser le travail humain avec l'ordinateur comme une simple interface. À l'origine, le but était de profiter des milliers de cerveaux pour les besoins de la plateforme de vente Amazon, en sélectionnant, par exemple, les meilleures photographies des produits, en rédigeant les descriptifs, en classifiant les produits, les musiques, en identifiant les interprètes des musiques. Ce sont des opérations qui sont très difficiles à automatiser, mais que les internautes sont prêts à effectuer pour de toutes petites sommes, voire simplement contre des bons d'achat. Et rapidement, l'entreprise comprend que cette idée peut avoir des applications bien plus vastes et met en place cette plateforme M-Turk, Mechanical Turk, qui devient une filiale d'Amazon. Le système, il est entièrement automatisé pour pas avoir à s'encombrer de la gestion humaine, et les clients peuvent avoir l'impression d'utiliser un système entièrement automatique. Ils ont qu'à commander en quelques clics ou via une interface de programmation n'importe quelle micro-tâche simple en très grande quantité et reçoivent rapidement le résultat. N'importe qui peut profiter de se servir et définir son propre prix pour les tâches, sur lequel Amazon prélève une commission d'une dizaine de pourcents. Le prix le plus courant, c'est 1 à 2 centimes par tâche. Les tâches, par exemple, ça peut être fournir la liste des 3 meilleurs albums de Metallica, ou donner la meilleure adresse pour manger un hamburger à Paris, ou encore, plus simplement, reconnaître des objets dans une photo. Amazon parle, vraiment, d'intelligence artificielle artificielle. Ce système est très rapide et très abordable, il est utilisé aussi bien commercialement que pour les études scientifiques qui nécessitent le traitement d'un grand nombre de données, par exemple. Ça, c'est donc créé en 2005 et c'est 2 ans plus tard, en 2007, que sonne le coup d'envoi réel de l'entraînement des intelligences artificielles via le classement des données par des humains. 2007, c'est la création de ImageNet, un ensemble de données visant à entraîner la reconnaissance d'images. L'équipe derrière ImageNet a calculé qu'il faudrait 19 ans à des étudiants pour annoter les millions d'images nécessaires. Évidemment, ils n'allaient pas attendre 19 ans et ils se sont tournés vers la plateforme Amazon Mechanical Turk en mettant 50 000 travailleurs au travail à travers 167 pays, payés 2 centimes de dollars par annotation d'image. La motivation première est bien évidemment financière, ce serait un travail impossible à effectuer au sein des entreprises de la tech avec des développeurs bien payés. Mais il n'y a pas seulement une raison financière, cette division extrême du travail en micro-tâches permet une très grande souplesse. Les tâches et l'organisation peuvent être ajustées en temps réel, sans préavis, tout en profitant d'une diversité culturelle et linguistique impossible à obtenir autrement. Ces aspects sont tous absolument primordiaux dans le développement des intelligences artificielles modernes. L'apprentissage, qu'on dit assez cyniquement finalement automatique, il est à la base de toutes les intelligences artificielles aujourd'hui, mais il repose en réalité sur un travail humain et tout à fait manuel de classification, de préparation, de vérification, d'annotation des données. Il faut absolument pas croire que tout ça c'est automatique. On peut distinguer 3 grandes familles d'algorithmes en fait qui servent à entraîner les intelligences artificielles, c'est-à-dire à leur injecter les données sur lesquelles elles travaillent, tout en s'assurant qu'elles répondront correctement aux problèmes qu'on va leur soumettre par la suite. Il y a d'abord l'apprentissage qu'on va dire supervisé, c'est la famille d'algorithmes la plus répandue, et cette méthode nécessite aussi bien une immense quantité qu'une excellente qualité des données, c'est-à-dire qu'elles soient très complètes et annotées. L'algorithme d'apprentissage doit pouvoir accéder à des données de test. Par exemple, pour qu'une IA puisse distinguer des images de chiens des autres animaux, il lui faut un ensemble de données qui contient aussi bien des photos de chiens qui sont labellisées comme des photos de chiens, et d'autres photos qui contiennent d'autres animaux qu'il faudra classer comme contenant d'autres animaux. L'IA pourra alors, grâce à ce corpus de données, associer le mot « chien » à son apparence visuelle. On peut facilement imaginer l'immense, l'incroyable, le gargantuesque travail de classification à faire, à taguer des millions et des millions d'images pour pouvoir développer des IA généralistes capables de tout reconnaître ou tout générer. Oui, parce qu'il faut bien qu'à un moment, les IA soient capables d'associer les images aux mots qui les décrivent. Et ça, c'est un travail de classification purement humain. Plus les tags sont précis dans les ensembles de données, mieux la solution pourra être ajustée et généralisée à de nombreux cas qui vont de la classification à la génération de contenu ou par exemple aussi la conduite automatique qui a bien besoin de reconnaître les éléments qui traînent sur la route. C'est la méthode la plus courante, cet apprentissage dit supervisé, aussi bien pour les IA qu'on va dire génératifs que celles qui servent à analyser des images, par exemple pour des diagnostics médicaux. La deuxième famille d'apprentissage, c'est l'apprentissage qu'on va dire automatique, non supervisé. Là, les données, elles n'ont pas besoin d'être classées, on peut les donner en vrac, et l'algorithme va se contenter de détecter des motifs qui se répètent dans les données. Cette méthode-là, elle va surtout servir quand l'objectif de l'IA qu'on entraîne n'est pas clairement déterminé, qu'on ne sait pas exactement comment elle va être utilisée, ou bien pour des analyses exploratoires, pour découvrir des motifs statistiques dans l'ensemble des données. C'est pas mal, notamment pour les études scientifiques. Cette méthode-là, elle peut servir de base aux grands modèles de langage comme ChatGPT, Claude, Mistral et compagnie, mais elle reste insuffisante et doit toujours, pour ces modèles de langage, rester combinée aussi à une forme d'apprentissage supervisé où les données sont bien classées, bien rangées et labellisées. La troisième famille d'apprentissage, c'est l'apprentissage par renforcement, qui lui correspond à ce qu'on pourrait qualifier d'essai-erreur. Dans ce cas, on a une boucle de rétroaction qui sert à corriger automatiquement le comportement de la machine qui va s'améliorer peu à peu. Ça, on va l'utiliser par exemple pour enseigner à une voiture à conduire seule ou à un robot à marcher ou bien pour entraîner une IA dans un jeu vidéo dont le comportement peut s'améliorer de lui-même petit à petit. C'est nettement plus minoritaire comme usage. Quoi qu'il arrive, les données d'entraînement sont très importantes. Donc avant même l'entraînement de l'IA, ça tout le monde le sait bien, la première fondation indispensable au fonctionnement des IA, c'est bien l'existence même de toutes ces données d'entraînement, c'est-à-dire l'immense travail humain préalable, la quasi-intégralité de ce que l'humanité a pu produire et qui nous est parvenu a été digitalisé et ingéré avec ou sans le consentement des auteurs, légalement ou illégalement. Et seulement ensuite peut se faire l'entraînement de l'immense majorité des IA qui nécessite aussi une importante intervention humaine pour classer les données d'apprentissage aussi bien que pour contrôler le comportement final des IA. On connaît tous les fameux CAPTCHA, ces exercices présentés aux visiteurs de sites internet pour les différencier des robots qui, eux, sont incapables d'effectuer ces tâches qui nous paraissent si simples. Ces tâches sont par exemple reconnaître la moto dans une photo ou bien emboîter de pièces de puzzle, et c'est un bon exemple des micro-tâches qui permettent de préparer les données d'apprentissage des IA. Si ces CAPTCHA servent effectivement à entraîner les IA, ils sont malgré tout loin, très loin de suffire aux besoins gargantuesques des IA et de remplacer les plateformes comme Amazon Mechanical Turk dont je viens de vous parler. Parce que les tâches à effectuer dans ce cadre sont effectivement très majoritairement tout à fait stupides et ingrates, et je vais vous en donner quelques exemples pour bien comprendre et imaginer comment la somme de tâches à accomplir est virtuellement infinie, parce que les IA ne savent rien apprendre ni comprendre par elles-mêmes et qu'on leur inculque. Premier exemple, pour le cas des assistants vocaux, il faut que la machine, elle s'exprime avec et elle comprenne le bon accent dans la bonne langue de son utilisateur. Il faut alors enregistrer de nombreuses commandes vocales pour l'entraîner avec des locuteurs natifs de toutes les langues et de tous les accents des potentiels utilisateurs. On va alors par exemple demander à des gens d'enregistrer 5 manières différentes de demander la météo à un assistant dans leur langue natale avec leur accent. Et il faut un très grand nombre de gens qui se prêtent à cet exercice sur de nombreuses commandes différentes pour avoir le corpus de données nécessaire à l'apprentissage de l'assistant vocal. Autre exemple, pour entraîner des machines qui travaillent avec de l'image, faut non seulement annoter des millions d'images pour en décrire le contenu, et qu'elles puissent associer les images aux mots, mais il faut aussi carrément y entourer précisément les éléments à reconnaître. Parce que un simple cadre autour du chien ne suffit pas, il faut le détourer avec précision. Il faut détourer avec précision tout ce qu'il y a à reconnaître et à noter. Que ce soit des animaux, des objets, des bâtiments, ou des cadavres, des blessures, des maladies. Parce que oui, les IA servent aussi à ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la segmentation sémantique. Ce travail, il est impossible avec des logiciels standards et il fait l'objet d'un développement avancé pour aider à augmenter la précision des travailleurs. Et cette amélioration utilise elle-même l'apprentissage automatique dans une course sans fin au détail et à l'efficacité qui oblige constamment à entraîner à nouveau la machine. On peut aussi, par exemple, demander à des gens de différencier des palmiers et des piétons pour aider les voitures autonomes, ou encore taguer des images pour aider les IA à générer des images de célébrités. Je précise que tous ces exemples sont des exemples bien réels, recueillis auprès des travailleurs qui font ce travail, dont je parlerai un peu après. Autre exemple encore, pour entraîner diverses machines de contrôle, par exemple les caméras de surveillance ou la modération des réseaux sociaux, il faut annoter les événements à détecter. Ça va des vols à la violence, à la pornographie, au terrorisme, et je vous laisse imaginer la difficulté de ce travail spécifique. Il y a d'ailleurs eu une augmentation notable de ce genre de tâches après la période 2015-2016 et les attentats nombreux qu'il y a pu y avoir avec l'État islamique, et l'augmentation de la demande en modération et de systèmes de surveillance. Ce genre de tâches d'ailleurs ne pourra jamais être complètement automatisé parce que tout nouveau type de données nécessite de nouveaux entraînements de la machine. Ce ne sont là que des petits exemples, mais il faut bien comprendre que tous les usages des IA correspondent à un entraînement spécifique et que ce sera jamais terminé. Il faut le recommencer tout le temps, ne serait-ce que parce que les IA doivent évoluer tout le temps pour entretenir la mode et la consommation. Faut pas seulement entraîner les IA d'ailleurs, mais faut aussi les aligner, c'est-à-dire corriger ce qu'elles font mal une fois qu'elles ont été entraînées, corriger les biais, contrôler la conformité de ce qu'elles font. D'ailleurs, parenthèse, c'est ce contrôle qui fait toute la différence entre ChatGPT de OpenAI et Grok de xAI de Elon Musk, parce que les deux sont alignés de manière assez différente. Contrairement, et je tiens à le dire parce que j'ai entendu des gens qui y croient, contrairement à ce que nous dit Elon Musk est les plus fascistes des développeurs des IA, ce qui différencie Grok, le modèle de langage de Elon Musk, c'est pas d'être moins contrôlé et plus libre de sa parole, c'est pas ça qui lui permet de devenir fasciste, non, c'est bien qu'il est aligné différemment de ChatGPT et de OpenAI. Ce sont des choix conscients, politiques et manipulateurs. D'ailleurs, il suffit de lire la pseudo-encyclopédie Grokipédia générée avec Grok pour se rendre compte que les textes là-dedans sont pleins de biais qui s'éloignent des consensus scientifiques et culturels bien établis, prouvant une orientation qui a été consciemment donnée à Grok pour favoriser les idées fascistes de ces entreprises. Je vais vous donner quelques autres exemples d'alignement, d'exercice d'alignement d'IA. Pour peaufiner le fonctionnement des outils de transcription écrite des dialogues, il faut par exemple comparer la transcription faite par un humain et celle faite par une machine pour corriger les erreurs de grammaire, de syntaxe, de vocabulaire de la machine. Mais il faut aussi par exemple annoter les éléments de la bande audio qui auraient pu induire la machine en erreur, comme les bruits parasites, les accents, les mots mal prononcés, tout ça pour pouvoir améliorer les performances de la machine. Autre exemple, on aligne et on évalue les modèles de langage en comparant l'adéquation entre leurs réponses et les demandes des utilisateurs. Il y a comme ça un énorme travail de test des modèles de langage, où il faut noter la pertinence et la crédibilité des versions des différents modèles pour améliorer les performances ou corriger les inévitables biais et erreurs les plus grossières. Il faut aussi, en passant, entre parenthèses, les empêcher de fournir la recette d'une bombe ou des méthodes pratiques pour se suicider, ce genre de choses. On n'a pas trop envie que les modèles de langage puissent donner ces informations-là, et il faut bien des humains pour le leur interdire et détecter les contextes dans lesquels elles risquent de le faire. Des chercheurs ont ainsi récolté des témoignages de personnes chargées de contrôler le fonctionnement des IA de cette manière, et ce, bien après qu'elles aient été entraînées, testées et déjà mises sur le marché. C'est un effort continu pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et ne dévient pas. On pourrait ajouter aussi un troisième encadrement humain des IA, ce qu'on pourrait appeler l'humain dans la boucle, ce qu'une étude que j'ai lue appelle la personnification de l'IA, ou plus prosaïquement, ce que j'appellerais bien la triche. Parce que c'est en effet pas rare du tout que derrière les systèmes qu'on va dire artificiels, intelligemment artificiels, se cachent en réalité des humains qui contrôlent et ajustent le système en temps réel. Et c'est le cas des voitures autonomes, des robots de taxi, comme j'ai pu l'évoquer l'année dernière dans la première saison du podcast, et qui est confirmé récemment par Alphabet, la maison mère de Google, qui gère l'entreprise Waymo, les taxis autonomes qui roulent aux États-Unis, et qui peuvent être contrôlés depuis les Philippines, en direct, par des humains. Tout ce que je vous raconte là est évidemment sourcé et vérifié. Toutes les sources sont disponibles sur le site internet du podcast lafourmi.media. On a aussi des témoignages qui font état de caméras intelligentes, entre très gros guillemets, qui sont en réalité surveillées depuis l'autre bout du monde par des opérateurs tout à fait humains. L'idée du turc mécanique fait long feu. Tout ça, ce sont des micro-tâches hyper simples, mais qui ont besoin d'être répétées un nombre incommensurable de fois. C'est pas du tout nouveau dans le monde numérique, ni même propre à l'IA, bien que l'IA ne puisse absolument pas exister sans cet énorme travail humain. Toutes ces micro-tâches s'inscrivent en fait et profitent d'un système bien plus ancien que la mode de l'IA et qui est déjà bien rodé, j'en ai un petit peu parlé, avec cette histoire d'Amazon Mechanical Turk qui a déjà 20 ans. On peut lister 4 grandes catégories de ces micro-tâches. Il y a l'entraînement des IA, comme je viens de le décrire, mais aussi la modération de contenu, dans laquelle s'insère d'ailleurs l'alignement des IA, les tests d'usage à distance des outils et la manipulation des médias et des réseaux sociaux. Un papier du Deep Lab qui étudie justement ce travail, ces micro-tâches et qui dépend du CNRS et de l'Institut Polytechnique de Paris liste ces micro-tâches dans un classement en 3 types. Il y a les micro-tâches qui travaillent sur les données, par exemple l'annotation de texte et d'images, la transcription audio et vidéo, l'évaluation des publicités, le classement de contenu pour l'entraînement des IA. Il y a les micro-tâches qui sont du test et de l'évaluation, par exemple le test d'application et de site web, la critique de produit, le test de jeu, les sondages, les études de marché. Et il y a enfin les tâches qu'on va dire promotionnelles, où on va demander à des gens de regarder des vidéos sur YouTube pour augmenter le nombre de vues artificiellement, ou de souscrire à des chaînes, ou de liker, de commenter des posts, de générer de l'engagement sur les plateformes et les réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Spotify, Instagram, TikTok. Tout ça, ce sont bien des tâches qui sont sous-traitées sous forme de micro-tâches payées quelques centimes à des travailleurs dans le monde entier sur le modèle de Amazon Mechanical Turk. Le monde numérique, et en particulier les IA, toutes les IA reposent sur ce travail humain bien réel et absolument indispensable dans une quantité qui contrebalance largement les soi-disant économies et gains de temps que représentent ces outils pour leurs usagers, qui ne font que profiter du travail d'autres gens qu'ils ne connaissent pas ailleurs dans le monde. Mais qui sont donc ces travailleurs de l'ombre? Qui les font travailler et dans quelles conditions? C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Bien évidemment, dans un monde capitaliste mondialisé, les éditeurs et les développeurs d'intelligence artificielle ne prennent pas eux-mêmes directement en charge la gestion de toutes ces micro-tâches. Ils peuvent acheter des ensembles de données déjà classés, ou profiter de ceux qui seraient accessibles librement, mais ils font surtout très majoritairement appel à des prestataires et des plateformes de micro-travail. On estime ce marché mondial à plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards de dollars. Quelques grandes entreprises se partagent le marché, au-delà de l'historique Amazon Mechanical Turk, plus ou moins spécialisé dans l'IA. On a par exemple la grande Scale AI, qui vaut plusieurs dizaines de milliards de dollars et qui est en pleine croissance. Surge AI, Appen, Sama, Lionbridge AI, Microworkers, UHRS, Clickworker, Toloka, Fiverr, Upwork. Il y a encore d'innombrables autres plateformes, dont certaines sont les filiales d'autres plateformes ou des filiales des plus grandes de ces entreprises. Par exemple, Remotasks, qui appartient à Scale AI, Contra, Telus, OneFormat, SpoutGigs, Outlier AI, Mostacle, Utest, UNU, Timebox, Pones, Cortalicash, Ysense, Honeygain, Populi. Il y en a des dizaines de ces entreprises de micro-travail. Certaines ne sont présentes que dans quelques pays, mais la plupart sont surtout des plateformes en ligne qui permettent à n'importe qui, n'importe où dans le monde, de s'inscrire pour effectuer des micro-tâches. Ces travailleurs et travailleuses, généralement indépendants entre énormes guillemets, sont alors payés quelques centimes à la tâche. Elles et ils sont des tâcherons exploités au bénéfice des entreprises du numérique et de la tech des pays riches. Évidemment, le droit du travail n'est pas nécessairement respecté, ni les lois des pays dans lesquels vivent ces travailleurs et ces travailleuses. Scale AI, par exemple, on sait qu'ils respectent assez peu le droit du travail et enchaînent les plaintes et les procès, et les travailleurs interrogés font par exemple état de paie en retard, voire annulés. Ces témoignages font état de comptes soudainement supprimés avant d'avoir été payés ou de plusieurs années d'attente. Cette entreprise, soit dit en passant, travaille directement pour Meta et Facebook, Microsoft, OpenAI et le ministère de la Défense états-unien, que Trump a d'ailleurs renommé le ministère de la Guerre. Sama, autre exemple, de son côté, fait face à de nombreuses accusations à propos de la souffrance des travailleurs et travailleuses chargés de la modération de Facebook, dont certains et certaines souffrent de stress post-traumatique. Cette organisation du travail, c'est le point d'orgue de la mondialisation, la délocalisation ultime à travers ces plateformes. On se fiche complètement de savoir par qui et où le travail est fait, tant qu'il ne coûte rien. Le slogan de Lionbridge AI est « Machine Intelligence Powered by Humans ». L'intelligence de la machine animée par des humains. Sont donc ces tâcherons. Selon un rapport de la Banque mondiale, ils sont entre 150 et 400 millions dans le monde entier, et ce sont là des chiffres solides, j'ai lu le rapport et je le confirme. C'est-à-dire entre 4,4% et 12,5% de la main-d'œuvre mondiale. La majorité de ces travailleurs sont évidemment dans les pays du sud global, dans les pays pauvres, notamment aux Philippines, en Afrique, c'est-à-dire Kenya, Ouganda, Madagascar, Égypte, entre autres, et en Inde. Mais une partie sont aussi dans les pays plus riches, y compris aux États-Unis, où Amazon Mechanical Turk a la majorité de ses travailleurs, par exemple. Ça met à mal l'image de la tech numérique qui serait issue de la Silicon Valley californienne, alors que le travail, l'immense majorité du travail qui permet à cette entreprise de la tech de fonctionner vient bien des pays pauvres du sud global. Quoi qu'il en soit, ces travailleurs sont majoritairement des travailleurs pauvres, des hommes aux trois quarts, entre 18 et 34 ans. Ils sont souvent diplômés avec un niveau d'études de bachelor, c'est-à-dire le premier cycle universitaire qui va jusqu'à Bac plus 3 en France par exemple. Ce sont des diplômes en général scientifiques ou techniques. Ils vivent plutôt en ville où ils ont plus facilement un accès à Internet. Le point commun de l'immense majorité de ces travailleurs, c'est qu'ils font ce travail par nécessité financière. La plupart d'entre eux en ont besoin pour payer leurs factures, alors même que ce salaire qui est indispensable à leur survie est extrêmement faible. Il va en moyenne de 1 à, au grand max, 4 dollars de l'heure. C'est généralement bien en dessous du salaire minimum des pays où ils vivent. Je réponds tout de suite à cette remarque qu'on me fait à chaque fois que je parle de ça. Oui, même dans ces pays pauvres, 1 ou 2 dollars de l'heure, c'est très faible. Il y a des témoignages qui font état, par exemple, de 1,2 dollars de l'heure en Égypte. Les tarifs des tâches ont d'ailleurs tendance à plonger au fur et à mesure que les entreprises qui gèrent ça s'étendent dans de nouveaux pays et mettent en concurrence tous ces travailleurs pauvres les uns avec les autres. Ces micro-tâches représentent d'ailleurs, pour une grande partie de ces travailleurs, un deuxième, voire un troisième travail qui leur permet de compléter leurs revenus. Et c'est notamment le cas pour les travailleurs de Amazon Mechanical Turk aux États-Unis. Ils ont le plus souvent aucune couverture sociale, bien évidemment, ni même ne déclarent ses revenus pour un travail qui est largement informel. Ce constat d'impérialisme étant posé, nous sommes malheureusement encore loin d'avoir fini de détricoter ensemble cette machine qui n'a déjà plus rien ni d'intelligente ni d'automatique. L'apprentissage purement numérique de ces neurones purement virtuels repose pourtant bien sur du matériel tout à fait physique et des matières premières qui ont toutes dû être extraites puis transformées par du travail tout à fait manuel et humain. Là aussi, malheureusement, le colonialisme est encore bien présent et la quantité de travail que ce secteur représente est tout sauf négligeable. La mode des IA des années 2020 pousse d'ailleurs à la construction d'innombrables centres de données et fait exploser les prix des composants indispensables à leur fonctionnement, et ça ne fait que pousser à un accroissement de l'exploitation des ouvriers et des mineurs. Il faut ajouter à ça que l'IA est une branche de l'informatique qui nécessite des composants électroniques tout à fait spécifiques, qui sont à la fois capables d'une grande vitesse de traitement, mais aussi, et par conséquence de leur puissance démesurée, des composants qui soient plus résistants, notamment aux fortes chaleurs qu'ils génèrent. Les métaux et les matières premières nécessaires sont alors tout à fait spécifiques et très souvent assez rares. Je vais vous parler de ça avec un exemple très emblématique, mais pas unique. C'est bien quelque chose de répandu. Parlons des condensateurs qui doivent, pour l'IA, utiliser du tantale. Le tantale, c'est un métal particulièrement résistant à la corrosion et très bon conducteur, aussi bien d'électricité que conducteur thermique de la chaleur, et ça en fait une matière première très importante dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce tantale est donc une ressource non renouvelable, dont on a produit 2500 tonnes environ en 2025. Sur ces 2500 tonnes, environ un quart vient de mines industrielles, un peu plus de la moitié de mines artisanales, dont je vous parle juste après, et le reste vient du recyclage du tantale existant. Sur la production minière, industrielle et artisanale, plus de la moitié de la production internationale provient de la République démocratique du Congo, mais en particulier des zones militarisées. Un cinquième de la production mondiale vient spécifiquement d'une mine qui est la mine de Rubaya, qui se situe au nord Kivu, au Congo, qui est une zone de guerre où les mines sont sous contrôle militaire, sous contrôle du mouvement M23 et de l'armée rwandaise, qui a annexé en 2024 un quart du Kivu, où sont produits trois métaux indispensables au numérique, l'étain, le tantale et le tungstène. Dans cette zone de guerre, les attaques contre les civils sont systématiques et les violences sexuelles s'y multiplient de façon, je cite, « alarmante », selon un rapport de l'ONU. Le 28 janvier 2026, 200 mineurs, hommes, femmes et enfants, sont morts ensevelis dans l'effondrement de la mine de Rubaya. Dans cette zone, ces mines artisanales dont je vous parlais sont des mines à ciel ouvert qui consistent en fait en de vastes zones parsemées de trous creusés et minés à la main par des centaines, par des milliers de gens, sans aucune sécurité, parfois à flanc de montagne où a lieu ce fameux glissement de terrain qui a tué 200 personnes. Malgré tout, la Commission européenne a signé un accord en février 2024, c'est-à-dire juste 3 mois avant la prise de la mine de Rubaya par le Rwanda, qui établit, je cite, « une coopération étroite entre l'Union européenne et le Rwanda pour l'intégration de chaînes de valeur durables pour les matières premières », un rapport fondé sur le fait que, je cite toujours, « le pays, le Rwanda, est un acteur majeur au niveau mondial dans le secteur de l'extraction de tantale ». Sauf que ce tantale dont on parle est en réalité très majoritairement pillé au Congo et non pas extrait au Rwanda. C'est un fait établi et connu, rappelé par l'ONU depuis 2001, à l'origine même de l'expression « les minerais de conflit » que l'Union européenne a sciemment ignoré avec cet accord qui encourage et renforce l'offensive très lucrative menée par le Rwanda. Cette exploitation minière en zone de guerre profite de l'investissement d'entreprises européennes telles que par exemple la britannique Power Resources ou des groupes d'intelligence artificielle comme le polonais Luma Holdings. On est bien là encore dans un colonialisme tout à fait digne des colonies qui existent depuis toujours. On exploite les ressources des pays pauvres avec la participation de quelques personnes bien choisies là-bas et on esclavagise la population maltraitée en zone de guerre notamment. Ce qu'on va voir dans tout ça, c'est que ces problèmes dont je parle, ce travail humain, cette exploitation humaine derrière l'IA, c'est un problème structurel. Par leur conception, les IA statistiques, qui reposent dans leur immense majorité sur un entraînement qui nécessite des millions, des milliards de données annotées, classées, filtrées par des travailleurs humains, puis sur un alignement qui est là aussi nécessairement humain, mais qui repose aussi sur du matériel et des matières premières qui exploitent des ouvriers et des mineurs dans le monde entier, ces IA sont structurellement dépendantes des chaînes de sous-traitance qui commencent dans les startups de l'IA et se terminent sur les tâcherons philippins, indiens, kényans ou sur les mineurs et mineuses congolaises par exemple. C'est absolument inévitable et il faut arrêter de voir les startups comme des lieux branchés sur internet qui conçoivent des IA simplement à travers de complexes lignes de code. Toutes les startups dépendent des données, des métaux, des semi-conducteurs dans une quantité qui ne permet pas et ne permettra jamais leur production éthique, alors même que nous n'avons pas abordé ici les conséquences sur l'environnement planétaire de cette production. On peut tout à fait mettre un mot bien plus exact pour qualifier ces tâcherons et ces ouvriers, ces mineurs. Ce sont les esclaves. Modernes, certes, mais ce sont bien des esclaves qui ne sont pas différents de l'esclavage depuis toujours, issus de pays pauvres, issus d'anciennes, entre guillemets, colonies, qui sont toujours victimes de l'exploitation par ceux qui possèdent les richesses et la puissance. Pour accéder aux sources, aux chiffres, aux détails concernant tout ce que je vous ai raconté ici, je vous invite à visiter le site internet lafourmi.media où j'ai publié par écrit un long article correspondant à cet épisode. Maintenant que vous avez écouté ça, vous savez, je vous encourage très fort à partager ces informations dans votre entourage et en particulier à ceux qui font joujou avec des IA pour des choses complètement inutiles. Vous pouvez partager l'épisode, vous pouvez partager ce que j'ai écrit, vous pouvez partager les nombreux articles qui m'ont servi de source et qui sont tous très intéressants sur le sujet que vous trouverez sur le site internet du podcast. Je ne sais pas si cet épisode va finalement conclure cette première saison sur l'intelligence artificielle sur laquelle je me suis senti obligé de revenir un an plus tard alors que j'ai déjà fini la saison 2. Quoi qu'il en soit, le podcast n'est pas terminé, une saison 3 est en préparation. Je ne m'interdis pas, vous l'avez compris, de revenir sur des sujets déjà abordés. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur le site internet pour être tenu au courant de l'actualité du podcast. N'hésitez pas aussi à faire un petit don pour soutenir ce travail qui ne bénéficie d'aucun sponsor, d'aucune publicité, d'aucune de vos données qui pourraient être revendues à ces affreuses IA. Vos petits dons sont la seule et unique source de revenus que je peux dégager pour effectuer ce grand travail et je vous suis infiniment reconnaissant de les faire. Merci beaucoup et à bientôt. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie par Nicolas Dufresne. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce podcast et en particulier Anna Halsey. Tout au long de ce podcast, vous avez pu entendre des musiques de Aluminum Forest, Mountain Sounds et Christian Taus sous licence Creative Commons. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre serveur Discord disponible sur lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don ou trouver des options pour un soutien régulier.